Géopolitique.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. En 10 mois à peine, ils sont devenus omniprésents à Bangui. Ils forment les FACA, les forces armées centrafricaines, assurent la sécurité rapprochée du président Faustin Archange Touadéra, jouent les médiateurs avec les groupes armés qui contrôlent encore les 3/4 du pays et implantent des bases dans les zones diamantifères. Pourquoi cet intérêt subi des Russes pour la Centrafrique compte-t-il à y gagner? Le Kremlin cherche-t-il à évincer la France de son précaré africain? La Centrafrique est-elle la tête de pont des ambitions russes sur le continent? On en débat avec nos invités. Roland Marchal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale. Avec nous en ligne de Moscou, Arnaud Dubien, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'Observatoire franco-russe à Moscou et vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Roland Marchal, est-ce que c'est par dépit que les Centrafricains ont ouvert les bras à la Russie?
C'est très certainement dans un vide politique international, après une transition qui a été quand même très largement guidée par les Français. Ils se sont retrouvés un peu esselés, puisque le principal objectif des Français était alors clore l'opération Sangaris, ce qui a été fait en octobre 2016. Et donc, d'une certaine façon, il y avait une avenue, il ne fallait que quelqu'un en bénéficie, cela a été la Russie.
Arnaud Dubien, est-ce qu'il existait des liens particuliers entre la Russie et la Centrafrique avant le début de cette lune de miel en 2017?
Non, la Centrafrique, très clairement, ne faisait pas partie des pays entrant dans la zone d'influence soviétique ou russe plus récemment. Très clairement, c'était un précaré français.
Alors, on va remonter donc un an en arrière. Roland Marchal, comment les Russes ont-ils obtenu de l'ONU le droit d'envoyer des instructeurs et des armes à la Centrafrique alors que le pays était sous embargo?
Écoutez, je crois qu'il faut le dire parce qu'il y a toute une partie des réactions sur la présence russe en Centrafrique qui est largement liée à un peu hystérique à mon avis et un peu liée au fait que c'est un acteur nouveau et que du coup on crée tout un discours, on leur donne des intentions et des projets que peut-être il faut considérer avec beaucoup plus de prudence. On est face à une ambiguïté fondamentale dans le fonctionnement international. D'un côté, la RCA est sous embargo. De l'autre côté, il est très clair que les rebelles se sont armés, se sont réarmés et de façon massive. C'est un des problèmes pour les mois qui viennent. Alors que le gouvernement, puisqu'il suit les règles des Nations Unies, ne peut pas le faire. Donc il y avait la volonté d'aller, et suivant d'ailleurs des règles onusiennes, hein, de fournir des armes. Les Français ont fait une proposition qui légalement posait un problème, puisque c'était des armes confisquées à des pirates somaliens. Les Russes ont fait valoir un argument juridique qui est tout à fait valide, que ces armes ne peuvent pas être données à d'autres puissances.
Donc les Russes ont mis leur veto.
Ils ont mis leur veto là-dessus, et donc je crois la présidence française a demandé au président Touadéra d'aller expliquer la situation à M. Poutine, ce qu'il a fait avec beaucoup de talent, visiblement, puisque les Russes ont décidé non seulement de donner des armes, mais de fournir des instructeurs avec. Jusqu'à ce moment-là, on est dans un processus qui est absolument, si vous voulez, contrôlé par les règles du droit international et des Nations Unies, et il n'y a aucune critique à faire là-dessus. Peut-être, d'un point de vue politique, on pourra s'étonner de la naïveté française, mais ça, ouais, c'est un autre débat.
Arnaud Dubien, les Français ont fait preuve de naïveté en conseillant au président Touadéra d'aller voir Sergueï Lavrov à Sotchi?
En tout cas, la tournure de la discussion entre Lavrov et Touadéra n'était certainement pas celle qu'attendaient les Français. Les Français, effectivement, ont envoyé les Centrafricains à Sotchi pour essayer de convaincre les Russes de lever leurs objections. Et les Russes ont proposé aux Centrafricains un accord de sécurité en bonne et due forme, avec des armes et des instructeurs. Donc effectivement, il y a un effet de surprise, une opportunité vue de Moscou dont les Russes ont profité.
Alors en janvier, 5 militaires et 170 civils russes débarquent à Bangui. Roland Marchal, qui sont ces civils? Et est-ce qu'il faut mettre des guillemets à civils?
Oui, on peut mettre des guillemets au terme civil, puisque ce sont des gens qui appartiennent à une société de sécurité privée. Mais là aussi, si vous voulez, sans vouloir faire du juridisme, on peut se rappeler qu'aujourd'hui, et c'est une dimension importante des guerres contemporaines, contemporaine et des guerres contre le terrorisme. On a une privatisation de la guerre. Combien y a-t-il de contracteurs privés aujourd'hui en Afghanistan? Combien y en a-t-il en Irak? Combien y en a-t-il, y compris au Yémen? Bon, la communauté internationale et les Français, en général, ne protestent pas là-dessus. Et c'est pas d'ailleurs là-dessus que porte le véritable débat. Mais c'est vrai que ces 170 civils, comme vous le dites, qui vont donner un entraînement aux forces armées centrafricaines, apparaissent dans un contexte où on les nie également à une certaine maîtrise de zones minières, où on les nie également à une certaine pratique de l'appui au gouvernement, compte tenu de ce qui se passe en Syrie et de ce qui s'est passé en Ukraine.
Arnaud Dubien, ces civils, comment sont-ils qualifiés à Moscou? Bon, beaucoup d'entre eux apparemment travaillent pour la société Wagner, qui employait des mercenaires en Syrie notamment. Quelle est la réputation de cette société Wagner en Russie?
En Russie, on en parle peu, et les gens qui en parlent prennent certains risques, il faut le dire. Si je devais me faire l'avocat du diable, je dirais que les Russes font en Centrafrique ce que nous, occidentaux, on a fait dans la région ou au Moyen-Orient. Cela a été dit par M. Marshall. Les sociétés privées, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, ont souvent pris le relais des troupes officielles pour ce genre de missions, que ce soit des missions de formation des troupes armées ou des missions de protection rapprochée de hautes personnalités.
Roland Marshall, ils sont combien aujourd'hui ces civils?
Alors justement, là on commence à aller dans le débat, c'est-à-dire que nous avons donc des gens dont le nombre a été approuvé par le Conseil de sécurité, et puis il y a le reste. Et le reste, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de réellement les compter. Pourquoi? Parce que ils se sont installés à proximité de Bangui,
à
Beringo, donc endroit bien célèbre du temps de Monsieur de l'empereur Bokassa.
Donc c'était l'ancien palais de Bokassa.
Exactement.
À 60 kilomètres
sur la route de Bangui. Et donc là, ils ont remis en place une piste, des avions décollent, des avions atterrissent. On ne sait pas quel cargo est transporté. On ne sait pas quel personnel également. Visite ou arrive, et les experts des Nations Unies n'ont pas accès à ces installations. Les Nations Unies, la MINUSCA, n'y a pas accès, évidemment la communauté internationale encore moins. Et donc là, il y a une première série, disons, de choses qui sont dites, qui sont largement invérifiables, mais qui évidemment posent problème. La deuxième chose, c'est dans un moment de grande séduction, hein, puisque c'est winning hearts and minds, les Russes savent aussi faire ça, et pas seulement les Américains ou les Occidentaux, ils ont envoyé un convoi humanitaire de Niala qui s'est déplacé dans le nord de la Centrafrique. Et là aussi, le personnel et la protection de ce convoi n'étaient pas simplement des civils. C'était aussi des gens qui, visiblement, avaient une certaine culture militaire et qui sont restés à l'intérieur du pays. Combien sont-ils? De quelles armes disposent-ils? Est-ce qu'on est face à une rupture de facto de l'embargo? Ce sont des thèmes qui mériteraient, disons, des clarifications au moins. Et si vous voulez, ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que finalement, dans ce contexte-là, ni la MINUSCA, ni d'ailleurs les Français, n'ont pour l'instant fait grand bruit au Conseil de sécurité pour avoir des données qui sont légalement exigibles.
Parce qu'en principe, les Russes ne peuvent pas participer aux opérations militaires de terrain, ce serait violer l'embargo, mais en même temps, ils ont permis aux forces centrafricaines de reprendre certaines villes.
Alors, les Russes accompagnent le redéploiement des FACA. Mais effectivement, comme vous le dites, ils restent à l'intérieur des campements. Ils ne participent pas, enfin pour l'instant de ce que je sais, ils ne participent pas aux opérations militaires. De la même façon, et ça c'était une fois de plus à la limite de leur mandat, et ça aurait dû susciter quelques interrogations internationales, lorsque vous avez eu en avril dernier des troubles à Bangui, des troubles extrêmement graves, notamment à partir du kilomètre 5, les observateurs russes sont venus dans des voitures de la police et de la gendarmerie centrafricaine assister au combat. Ce n'était pas leur rôle, ce n'était pas leur mandat. Et là aussi, et le gouvernement, on ne s'en étonnera pas, n'a évidemment pas protesté. Pas plus d'ailleurs que je sache la MINUSCA ou ce qu'on appelle le G5, c'est-à-dire cette coordination de la communauté internationale à Bangui.
Alors cette coopération entre Moscou et Bangui a franchi une étape supplémentaire au mois de mars, quand les casques bleus rwandais qui assuraient jusque-là la protection du président Touadéra ont été remerciés. Est-ce que cette décision a surpris à Bangui ?
Oui, elle a surpris. Bon, c'est un des premiers éléments qui pousse à susciter des questions. Il y en a d'autres, la création de forces spéciales qui sont en fait une garde présidentielle qui recrute majoritairement et très majoritairement dans le groupe ethnique du président, qui est par ailleurs est un petit groupe ethnique à l'échelle de la Centrafrique. Et évidemment, tous ces contacts qui ont eu lieu avec les mouvements armés et leurs chefs, dans des conditions qui sont là, encore une fois, légalement et internationalement discutables, dans la mesure où la plupart de ces chefs sont sous embargo et sous sanctions internationales, n'ont pas le droit de voyager, etc. Et néanmoins, arrivent à se retrouver dans cette belle capitale qu'est Khartoum.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Arnaud Dubien, les Russes ont installé un homme au palais présidentiel, Valéry Zakharov. Qui est-il ? Il y a beaucoup de rumeurs sur son compte. On le dit lié au FSB. Qu'est-ce que vous en savez, vous, à Moscou ?
Pour autant qu'on puisse le savoir, M. Zakharov vient de Saint-Pétersbourg.
Comme Vladimir Poutine ?
Oui, même si, encore une fois, il n'est certainement pas un proche du président russe. Il aurait fait l'essentiel de sa carrière dans la police, dans la capitale du Nord, non pas au FSB, non pas dans les services de renseignement militaire, mais il faut être prudent, puisqu'encore une fois, ces informations sont très fragmentaires, très parcellaires. Il ne semble pas connaître l'Afrique, pour autant qu'on puisse le savoir, il n'a pas d'expérience africaine antérieure, mais plutôt de bonnes connexions avec la société Wagner dont on a parlé, et certaines personnes qui font la politique russe en Afrique aujourd'hui.
Roland Marchal, est-ce que Valéry Zakharov est davantage que le conseiller chargé de la sécurité du président Touadéra ?
Bon, je crois que ce qui est très important dans ce qui vient d'être dit, c'est de souligner que les Russes, en fait, ils sont allés sans très bien savoir où ils allaient. Et je crois qu'ils ont vu, c'est personnellement mon opinion, elle est évidemment discutable et je peux en changer aussi. Je pense que les Russes ont vu une opportunité à plusieurs égards. Ils ont vu d'abord le fait que c'est une coopération qui ne coûte pas cher. Quand on regarde ça, encore une fois, à l'échelle d'autres conflits ou à l'échelle de la présence russe au Soudan, c'est quand même pas grand-chose. La deuxième chose, c'était une belle façon d'humilier les Français. Et je crois qu'ils ont réussi à voir les débats qu'il y a eu en France et les visites de certains de nos ministres, finalement. Et je crois que là, il faut revoir la présence russe dans un contexte plus général. C'est évidemment l'Ukraine, c'est évidemment les empoignades sur la Syrie, mais il faut aussi se rappeler, puisqu'on est sur le continent africain, la Libye, où quand même les Russes et beaucoup d'autres, les Chinois et beaucoup d'autres pays d'Afrique du Sud ont quand même eu l'impression que la diplomatie française à cette époque-là a légèrement manipulé l'accord qui s'était fait au Conseil de sécurité pour mettre dehors, dans les conditions qu'on sait, M. Kadhafi. Donc il y a ça, et il y a cette idée que finalement on peut y aller, on va ramasser de l'argent assez facilement. Il y a un vide politique, il y a aussi un vide militaire, donc si on arrive suffisamment structuré, on arrivera à tenir tout le monde sous contrôle et ça va marcher. Et si vous voulez, je crois ce qui fait sourire le chercheur, c'est que évidemment on retrouve là un raisonnement que les Français ont tenu il y a bien longtemps et qui évidemment a échoué de façon dramatique, puisque la MINUSCA intervient aujourd'hui après 10 autres interventions pour soi-disant rétablir la stabilité d'un pays, et que visiblement la MINUSCA n'est pas prêt d'y arriver.
Alors, le 30 juillet, trois journalistes russes sont assassinés alors qu'ils enquêtaient en Centrafrique sur les activités de la société Wagner, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui va déclencher les questions, les soupçons sur les velléités russes en Centrafrique, Roland Marchal ?
Non, je crois qu'il y a des questions que se posent les chancelleries occidentales, Bruxelles, Paris, Washington, qui sont très bien représentées en Centrafrique, sur les rapports avec les mouvements armés, ce qui est en jeu, c'est-à-dire est-ce que, si vous voulez, l'hypothèse que certains font, est-ce que finalement la présence russe va vivre de ce déséquilibre structurel et faire son miel dans cet entre-deux qu'ils essayent de jouer à Khartoum, mais aussi dans les faits sur le terrain, entre le gouvernement et les mouvements rebelles. Ce qui s'est passé avec les journalistes russes, quand même trois journalistes tués dans des conditions atroces, il faut le dire, ça révèle, si vous voulez, d'abord le fait qu'on est prêt à tuer des gens, Est-ce que ce sont les Russes? Il n'y a pas de preuve définitive. Et d'ailleurs, personne aujourd'hui ne demande où en est l'enquête. Et
mais c'est une des nombreuses. Selon la version officielle, ils ont été tués dans une embuscade tendue par des ex-Séléka.
Oui. Alors évidemment, si vous voulez, les observateurs là aussi ne peuvent pas s'empêcher de dire que quand même, ils venaient de faire des interviews qui étaient assez chaudes et qui certainement auraient donné matière à critique de la présence russe. De l'autre côté, c'est une zone qui est tenue par les anti-Balaka, qui sont plutôt proches du gouvernement, comme on le sait. Donc imputer un crime à la Séléka, c'était, disons, léger, pas du tout convaincant, et on attendait évidemment les résultats d'une enquête judiciaire. Je remarque que plus de 6 mois après, on ne sait rien de ce qui s'est passé et de ce qui se passe. L'enquête judiciaire, elle est de nouveau dans les limbes, ce qui est quand même assez sympathique dans un pays où la MINUSCA, le gouvernement, n'arrête pas de dire que la lutte contre l'impunité sera à 100%.
Arnaud Dubien, pour qui travaillaient les journalistes russes et comment leur assassinat a-t-il été commenté à Moscou ?
Les trois journalistes en question travaillaient pour, à la demande en tout cas, de M. Khodorkovsky, qui est l'ancien oligarque, qui a purgé
l'ancien patron de Yukos.
Absolument, qui est connu pour ses prises de position très hostiles à l'égard du président russe, ce qui alimente évidemment tous les soupçons. C'était des journalistes connus, chevronnés, qui avaient une longue expérience des conflits, notamment en ex-URSS, mais également en Syrie. Par ailleurs, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Marchal tout à l'heure, sur le contexte franco-russe. C'est très important de se replacer à l'automne 2016. L'automne 2016, c'est Alep, en Syrie. Des prises de position françaises extrêmement virulentes, y compris à l'ONU, où l'on parle de traduire certains responsables russes devant la justice internationale. Et effectivement, je pense que la Russie n'était pas fâchée d'humilier ou en tout cas de lancer une pique à la France dans ce qu'elle considérait comme son précaré, d'autant plus que la France, par ailleurs, est active en ex-URSS, en Ukraine ou en Géorgie, par exemple, où elle essaie de vendre des systèmes d'armes.
Est-ce qu'on peut dire aussi que c'était peut-être des représailles aux sanctions européennes prises après l'annexion de la Crimée par la Russie ?
Non, je ne pense pas, parce que les sanctions ont été adoptées en 2014. Là, on parle de l'automne 2016. C'est vraiment une opportunité qui s'est ouverte, que les Russes n'ont pas créée. Les Russes ne sont pas à l'origine de cette situation, mais dont ils ont envisagé immédiatement toutes les potentialités.
Roland Marchal, l'assassinat des journalistes, vous pensez qu'il est lié aussi aux activités, au business mis en place par des Russes en Centrafrique ?
Écoutez, je peux avoir une opinion, elle n'a aucune valeur. Il faut demander, il faut exiger que le gouvernement centrafricain, qui n'arrête pas de répéter qu'il faut la justice, eh ben, fasse son travail, que la police fasse son travail sur ces meurtres-là, sur les meurtres à Bangassou, qu'on arrête simplement de jeter à la figure du public et de la communauté internationale qu'on va enfin lutter contre les criminels, alors qu'en fait, ces criminels sont dans la rue, ont de très bonnes relations avec le gouvernement et le président, et restent absolument dans une impunité totale.
Alors, j'en reviens aux sociétés russes qui se sont implantées en Centrafrique pour exploiter visiblement le sous-sol. Est-ce que ce sous-sol centrafricain qu'on dit riche en or, en diamant, en uranium, est aussi riche qu'on dit finalement ?
Oui, si vous voulez, la richesse, elle est toujours potentielle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas...
Il n'y a pas eu d'estimation précise.
Non, il y a des estimations. Le diamant centrafricain est un diamant qui est tout à fait merveilleux, qui est un diamant de joaillerie, tellement il est pur. Hein, donc, pas simplement le diamant industriel que vous trouvez, par exemple, de façon très majoritaire en Afrique du Sud. Donc, il y a réellement des ressources. Le problème est évidemment le problème des compagnies russes aujourd'hui. Hein, c'est il faut quand même qu'on puisse opérer dans un minimum de sécurité. Hein, on ne va pas se faire tirer dessus à chaque instant parce que simplement on contrôle les creuseurs ou les orpailleurs. C'est pour ça qu'il faut un accord avec les mouvements armés. C'est pas pour faire la paix dans le pays. C'est pas pour résoudre la crise existentielle de la Centrafrique. C'est pas pour réconcilier la République centrafricaine, les communautés religieuses au sein de la République centrafricaine. C'est pour contrôler et pour s'assurer la sécurité d'une toute petite partie du territoire et espérer qu'on puisse faire beaucoup d'argent avec ça.
Arnaud Dubien, vous êtes d'accord, les intérêts économiques de la Russie en Centrafrique, qu'est-ce qu'ils représentent à l'échelle du continent ?
Pas grand-chose, à vrai dire. J'observe tout d'abord que les sociétés russes que l'on dit présentes en Centrafrique sont des sociétés de deuxième, voire troisième niveau. On ne parle pas de grandes compagnies minières russes comme Rosatom, Norilsk Nickel ou d'autres. Ce sont des compagnies assez peu connues qui opèrent sur des projets d'envergure toute relative. Et encore une fois, la Centrafrique, contrairement à l'effet d'optique qui peut prévaloir à Paris, c'est pas très important dans la politique russe sur le continent. Pour la Russie, l'Égypte, l'Algérie, le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, bien sûr, sont beaucoup plus importants que la Centrafrique.
On va y revenir dans la seconde partie de cette émission. Roland Marchal, Arnaud Dubien, on se quitte pour le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre des ambitions russes.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. La Centrafrique sert-elle de laboratoire, de tête de pont aux ambitions russes en Afrique? On continue d'en débattre avec Roland Marchal, chercheur au CERI, et avec en ligne de Moscou Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou et chercheur associé à l'IRIS. Alors on a parlé du business, on a parlé de la formation des FACA, les forces armées centrafricaines. Vous l'avez mentionné, Roland Marchal, la Russie a également entrepris une médiation avec les groupes armés qui ont encore sous leur coupe les trois quarts de la Centrafrique. La France était restée assez silencieuse les premiers mois de l'implantation ou de l'arrivée des Russes en Centrafrique. Et finalement, c'est là, au moment où ils ont entrepris cette médiation, que Paris, tout à coup, est sorti du bois, a pris la parole, s'est un peu réveillé, s'est irrité.
Oui, alors si vous voulez, je crois qu'il faut bien se rendre compte que Paris cherchait une opportunité. Le fait que vous ayez une facilitation de l'Union africaine qui est de fait remise en cause par ce que font aujourd'hui
les Russes. Cette médiation parallèle.
Une médiation parallèle permettait à Paris de parler sur la Centrafrique avec l'appui de l'Union africaine, qui a très peu apprécié. Président rwandais, vous le signaliez avant, à propos de la garde personnelle du président de la République, Monsieur Touadéra, président rwandais a appelé son homologue centrafricain et de ce qu'on a entendu, les noms d'oiseaux ont été prononcés. Donc il y a une certaine colère du côté des Africains. Il y a une très très grande méfiance de la région vis-à-vis de ce que la Russie peut faire, notamment de la part de pays aussi importants dans la vie politique centrafricaine que le sont le Congo-Brazzaville et le Tchad. Et donc, d'une certaine façon, les Français sont intervenus et n'apparaissaient plus simplement comme l'ancien colonisateur qui demandait à ce que, quand même, on passe d'abord par Paris pour aller à Moscou, mais également apparaissaient comme porteurs d'un message qui était, de fait, le message de la région. Et donc, d'un point de vue diplomatique, c'était relativement bien joué. Le problème est que la politique française, elle est un peu courte. Envoyer un ministre après de longs mois de désintérêt pour simplement dire qu'on va donner 24 millions de...
Donc Jean-Yves Le Drian qui était à Bangui récemment.
Et 1400 fusils, si vous voulez. Ça ne tient pas du tout compte de là où en est la Centrafrique. Ça ne tient pas du tout compte également de ce qui s'est passé dans la construction d'une relation entre le président centrafricain et les Russes. Le fait que ce président aujourd'hui pense que de toute façon il ira aux élections avec l'appui russe et sans doute sans l'appui français. Et le fait qu'il est en train de reconstruire de fait un parti unique, puisque là, on vient d'assister à une cérémonie très riche en couleurs. Donc il y a des enjeux politiques centrafricains que la diplomatie française semble avoir quelques problèmes à intégrer dans sa démarche. Et d'une certaine façon, les Russes, eux, sont très à l'aise, puisqu'ils voient une politique qui est la moitié d'une de ses, disons, adversaires occidentaux. Et de l'autre côté, eux ont une capacité d'influence sur le pouvoir centrafricain qui reste très fort. Maintenant, la vraie question, c'est pas de savoir qui des Français ou des Russes auront finalement raison, c'est de savoir dans quel état sera la Centrafrique si on continue sur cette voie. Et c'est là où moi j'ai l'inquiétude la plus grande.
Alors, comment s'y sont pris les Russes pour convaincre les chefs des groupes armés de se rendre à Khartoum pour discuter?
40 millions à chacun. Ça fait à peu près 60 000 euros, disons, à chaque chef de faction qui est venu à Bangui. Il y a eu d'ailleurs, suite à ça, quand ils sont revenus dans leur base, il y a eu des petites escarmouches parce que les gens n'étaient pas très contents de la façon dont cet argent a été partagé au sein de l'organisation.
Et est-ce qu'une amnistie est aussi sur la table, une amnistie pour les chefs des groupes armés?
Écoutez, le problème fondamental, c'est que nous n'avons pas de processus politique en Centrafrique pour la réconciliation nationale. Si on avait un processus politique pour la réconciliation nationale, on aurait, et c'est pas du tout la même chose, on aurait un dialogue politique avec les mouvements armés, et je le redis, ça n'est pas la même chose. Et donc, d'une certaine façon, ce que font les Russes, compte tenu d'une initiative de l'Union africaine qui reste quand même très très pauvre en contenu jusqu'à aujourd'hui, c'est de proposer une autre voie. et de trouver un arrangement. On peut douter, encore une fois, puisque l'arrangement ne concerne pas les problèmes clés de la Centrafrique. Il concerne les problèmes clés des leaders des mouvements armés, ce qui est quand même très différent. Donc on peut douter que ça puisse marcher, mais ce qu'on voit, c'est que pendant tout ce temps de cette médiation, la situation sur le terrain, elle continue à se détériorer. Le président de la République, président Touadéra, pourra peut-être faire des élections dans l'ouest du pays, mais disons très, très clairement, la réconciliation nationale n'est plus à l'ordre du jour.
Mais tout à l'heure, vous parliez des noms d'oiseaux qui ont volé dans la conversation entre Paul Kagame, président rwandais et président en exercice de l'Union africaine, et le chef de l'État centrafricain, Touadéra. Pourquoi est-ce que la médiation de l'Union africaine, qui a démarré donc en juillet 2017, est aussi lente?
Alors, si vous voulez, cette médiation, elle a été perçue, et peut-être à juste titre, comme étant une proposition du Tchad. Et donc il y a eu une méfiance naturelle, il y a eu une méfiance sur la question de l'impunité, de l'amnistie générale qui initialement était discutée. Donc il a fallu du temps pour, si vous voulez, reformuler cette proposition. Et ensuite, pour le dire peut-être en des termes peu diplomatiques, on s'est rendu compte que l'équipe qui faisait cette facilitation, finalement, n'était pas ce qu'il fallait pour remplir ce lieu. C'était des gens sans doute très honorables par ailleurs, mais qui visiblement étaient plus intéressés à passer du temps dans la capitale, étaient très peu intéressés au conflit et à la crise centrafricaine elle-même, et qui finalement, comme beaucoup le pensent à Bangui, regardaient plus l'argent qu'ils allaient pouvoir gagner, beaucoup plus que la réussite éventuelle qu'ils pouvaient provoquer dans la solution d'une crise. Donc, c'est une des raisons qui explique l'actuelle reformulation du projet avec l'inclusion des Nations Unies. Et on pense pour doper l'équipe de facilitation, de médiation, même si c'est pas exactement la même chose. Mais tout ça prend énormément de temps. Il y a visiblement beaucoup de désaccords. Et encore une fois, mon inquiétude, et que je n'arrive pas, enfin une inquiétude que je ne vois pas partagée par la diplomatie française, c'est que la situation sur le terrain, elle se détériore beaucoup plus rapidement que et ne suit pas exactement le calendrier des négociations au plus haut niveau ou au niveau de Bangui pour mettre en place cette médiation.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Arnaud Dubien, la ministre française des Armées, Florence Parly, a dénoncé un début novembre des initiatives opportunistes. Dans la foulée, Jean-Yves Le Drian, on en parlait à l'instant, s'est rendu à Bangui pour annoncer une livraison d'armes, une aide de 24 millions d'euros. Et lui a parlé de ceux qui auraient des ambitions voilées. Mais Jean-Yves Le Drian, comme Florence Parly, aucun des deux n'a jamais cité la Russie. Pourquoi, à votre avis ?
Les choses sont assez claires dans les propos de Florence Parly et de Jean-Yves Le Drian. Effectivement, la Russie a des ambitions en Centrafrique, cela a été dit. Elle a surtout des ambitions autour et ailleurs en Afrique. Je pense que ces déclarations témoignent plus d'une forme de dépit, d'amertume de la part et d'impuissance finalement de la part de la France qu'autre chose.
Alors je reviens à ma question initiale, Arnaud Dubien. Cette présence russe en Centrafrique, est-ce qu'elle illustre la volonté de Moscou de revenir en force sur le continent qu'elle avait dû quitter après la chute de l'URSS, ou est-ce que ce retour en force russe est un peu fantasmé ?
Non, il est effectivement là. Il y a une volonté de retour de la Russie sur le continent africain, mais que cette volonté ne date pas de 2016, continent qu'elle connaît bien, puisque Moscou, l'Union soviétique, y était présente depuis la fin des années 50, tout d'abord en Égypte, et puis dans les anciennes colonies françaises, et puis enfin en Afrique australe, dans la fin des années 70. Mais ce retour ne date pas de 2016. Ce retour date de 2006-2007. La Russie est d'abord revenue via l'Algérie, qui est un vieil ami de Moscou, en appliquant un schéma qui sera dupliqué dans d'autres pays, c'est-à-dire l'effacement de la dette contractée à l'époque soviétique en échange de la signature de nouveaux contrats, en particulier de contrats d'armement. Ce qu'il faut souligner, c'est que il y a un vrai changement de paradigme dans la politique russe. La politique russe, aujourd'hui, n'est plus une politique de soutien à des régimes amis dans un contexte de guerre froide. Il s'agit avant tout de signer des contrats. C'est une diplomatie économique, finalement, avec évidemment des répercussions politiques. Après l'Algérie, la Russie a essayé de revenir en Libye. Elle est revenue avec beaucoup de succès en Égypte. Et on voit également une diplomatie russe très active en Afrique australe. Schématiquement, la Russie distingue trois Afriques. Il y a l'Afrique arabe, l'Afrique australe, où la dimension minière est très importante, en Angola, au Zimbabwe, en Afrique du Sud également, avec des groupes comme Rosatom ou Alrosa, et puis, je dirais, le reste. Et la Centrafrique, dont on parle beaucoup, n'est certainement pas le laboratoire, pour reprendre le titre de l'émission, ni le polygone d'essai de la politique russe en Afrique. C'est un élément parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres. C'est un élément dont on parle beaucoup en France parce que ça nous concerne et on est assez froissé de voir les Russes s'immiscer dans ce qu'on considère comme notre précaré, mais ce n'est certainement pas l'élément, le maillon le plus important de la politique russe en Afrique.
Vous le disiez, l'URSS avait formé bon nombre d'élites africaines, soutenu les luttes pour la décolonisation aussi en Afrique du Sud par exemple, la lutte contre l'apartheid. Est-ce que Moscou a gardé des réseaux sur le continent qu'elle est en train de réactiver ?
Absolument. La Russie a négligé ses réseaux dans les années 90, pendant une quinzaine d'années après l'effondrement de l'URSS, tout simplement parce qu'elle n'avait plus les moyens d'être présente en Afrique. Et depuis une petite dizaine d'années, on voit effectivement la Russie s'appuyer, par exemple, sur un président namibien qui est un ancien des universités russes, et puis il y en a d'autres.
Le nouveau président angolais, par exemple, aussi ?
Oui, effectivement. Et puis, il y a en Algérie, par exemple, beaucoup de militaires qui ont été formés dès les années 60 dans les académies soviétiques puis russes. Et là aussi, de façon très logique et prévisible, s'appuie sur ces réseaux qu'elle avait effectivement négligés dans les années 90 et qu'elle essaie de réactiver actuellement.
Roland Marshall, comment les Russes séduisent-ils les Africains ? Est-ce que c'est leur image de leader militaire, l'image de ce qu'ils ont fait pendant la guerre en Syrie, qui joue aujourd'hui ?
Non, c'est d'abord ils se positionnent un peu contre l'ancienne puissance coloniale, ou les anciennes puissances coloniales, ils se positionnent contre l'Occident. Et il faut bien voir, je sais bien que ça n'arrive jamais jusqu'au cabinet ministériel, mais toute l'hostilité qu'il y a en Afrique vis-à-vis des politiques européennes, par exemple sur les migrants, sur l'accueil, toutes les difficultés qui sont faites. Et donc les Russes, qui par ailleurs partagent beaucoup d'aspects de ces politiques européennes sur les migrants, etc., sur le racisme, sont juste crédités parce qu'ils sont, ils apparaissent fondamentalement comme des opposants. Et donc ça, on aime bien. On aime aussi le fait que, un peu comme les Chinois, mais de façon très différente, il n'y a pas de conditionnalité politique. Hein, c'est ce dont M. Touadéra se réjouit visiblement beaucoup dans la période actuelle. Bon, les Français ont une politique qu'on peut critiquer, mais elle suit quand même un certain nombre de règles aujourd'hui internationales. Bon, les Russes, c'est plus facile de négocier plus crûment. Et d'une certaine façon, des présidences fragiles comme celles qu'on a en Centrafrique utilisent ça à leur meilleur bénéfice, oui.
Et est-ce qu'ils ont aussi une arme supplémentaire avec ces packages de sécurité qu'ils proposent ?
Alors écoutez, ça c'est en fait, c'est l'inquiétude qu'on peut avoir pour l'année qui vient. La saison des pluies vient de s'arrêter en Centrafrique. On s'attend à une escalade militaire et évidemment tout le monde suit avec beaucoup d'attention ce que les Russes vont faire. C'est-à-dire, est-ce que en cas de mise en difficulté des FACA, qui est assez probable, est-ce que le gouvernement russe interviendra ? On verra des troupes supplémentaires pour forcer un appui au gouvernement, au FACA et combattre les rebelles. Les Français l'ont fait de très nombreuses fois, hein, avec les succès qu'on connaît, puisque on a eu une crise existentielle en 2013, donc ça a échoué. Peut-être que les Russes vont vouloir faire ça, ou peut-être que dans les mois qui viennent, le président Touadéra sera obligé d'admettre que finalement l'intérêt russe pour son pays, tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit, n'est pas vital, que les Russes font des affaires, mais d'un autre côté n'iront pas si loin que ça. Et évidemment, dans ce cas-là, M. Touadéra devra devenir un peu plus raisonnable dans sa gestion de la vie politique intérieure. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est à la fois des questions géopolitiques ou des questions politiques, mais qu'il y a toujours les mêmes qui payent, et c'est une population centrafricaine qui n'en peut plus. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave, parce qu'on est au-delà des négociations entre discussions réelles ou de façade entre groupes armés et gouvernements. On est très proche d'un soulèvement ou de multiplication d'incidents militaires qui vont provoquer des dizaines de milliers de déplacés, comme c'est aujourd'hui le cas à Bambari, deuxième ville du pays, et puis des milliers de morts.
Des milliers de morts que la guerre avait déjà provoquées. Arnaud Dubien, est-ce que les armes livrées par Moscou en Afrique présentent un rapport qualité-prix spécialement adapté au marché africain ?
Oui, certainement, même si les armes chinoises sont, dit-on, moins chères que les armes russes, il est vrai que il y a souvent des prélèvements sur les stocks du ministère russe de la Défense, et la Russie souvent ne vend pas, mais offre en tout cas, dans un premier temps, au gouvernement en difficulté. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Marshall. Il y a, dans les rares articles que l'on lit en Russie sur la présence de Moscou en Centrafrique, une réelle inquiétude sur ce qu'il se passerait si effectivement le gouvernement de M. Touadéra était en difficulté. Et certains experts militaires ont pointé du doigt le risque qu'il y aurait à intervenir directement. En tout cas, la Russie aurait le choix entre perdre la face et intervenir directement, c'est-à-dire deux mauvais choix.
Parce qu'un accord de défense a été signé entre les deux pays en août dernier. Est-ce que l'on sait ce que contient cet accord de défense précisément, Arnaud Dubien ?
Non, l'accord n'a pas été publié. On peut penser qu'il s'agit d'une formalisation qui est déjà à l'œuvre, c'est-à-dire protection rapprochée, assistance à la reconstitution des formes armées et sans doute livraison d'armes. Mais on ne sait pas jusqu'où irait la garantie de sécurité de la Russie.
Si vous voulez, ce qui va être important, c'est de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou prochains mois, en fait, à Port-Soudan. Parce qu'évidemment, les Russes ne vont pas organiser un pont aérien pour déployer des troupes. Tout le monde a en mémoire ce qui s'est passé avec les Sud-Africains en 2013. Et les Russes sont surtout pas des idiots et des gens compétents dans leur domaine d'attribution. Donc, le vrai débat, c'est est-ce qu'ils peuvent prépositionner du matériel important pour mener une intervention militaire. Et donc, la seule possibilité aujourd'hui pour eux, c'est Port-Soudan. Et donc, est-ce qu'ils ont les moyens d'obtenir une zone franche à Port-Soudan qui leur permettrait ces facilités logistiques et de façon à pouvoir rentrer en Centrafrique, comme ils l'ont fait déjà d'un point de vue humanitaire, par le nord-est et mener la bataille. C'est pas le scénario forcément le plus crédible. Et ce qui vient d'être dit me conforte dans cette impression. Mais si vous voulez, ce risque-là est dangereux parce que je crois que des deux côtés, du côté du gouvernement comme du côté des rebelles, il y a un peu une volonté de tester cet appui russe, et donc si vous voulez, on peut faire escalader des incidents qui restent relativement mineurs simplement pour voir comment les Russes vont venir. Une nouvelle fois, la population va payer le prix fort, plus que les gouvernants ou les Russes ou les Français. Et de l'autre, surtout, une fois qu'on est dans une escalade, on peut prendre des décisions dont on ne mesure pas du tout les conséquences, et ça, c'est très très dangereux.
Et je voudrais ajouter que selon l'ONU, près de 2 millions de personnes sur les 4,5 millions d'habitants de la Centrafrique nécessitent une action alimentaire urgente. Et l'ONU qui souligne que la situation est la pire depuis 2014. Arnaud Dubien, j'ai encore une question. Est-ce que la Russie espère également, avec ce retour en Afrique, obtenir des voix africaines dans les instances internationales et à l'ONU notamment ?
Sans doute comme un effet indirect, mais je ne pense pas que ce soit le cœur de la démarche. La démarche, elle est essentiellement géoéconomique, avec, espère-t-elle, quelques répercussions politiques. Et j'observe à cet égard que la Russie entend organiser le premier sommet Russie-Afrique l'année prochaine à Moscou.
Roland Marshall.
Oui, comme tout pays émergent, la Russie a des ambitions africaines et c'est bien. La Centrafrique, parmi d'autres, a besoin d'investisseurs étrangers. Donc, si ça se fait dans les règles, c'est très bien. Mais je crois aussi que n'importe quelle puissance, du Japon à la Chine, en passant par les Français et donc les Russes, n'importe quelle puissance, c'est très bien que l'Afrique, c'est quand même un bassin de vote important aux Nations Unies et que ça évite un isolement diplomatique qui peut, à l'occasion, surgir pour les Russes ou pour d'autres.
Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Roland Marshall, chercheur au CERI, Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou et chercheur associé à l'IRIS. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Tania Tsikounas et Véronique Durand qui m'ont aidé à la préparer. Bonne soirée.